franceinter.fr.
Eh, vous ? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous.
Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Ceci est un message de l'Établissement français du sang.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse d'Yves Decamps. Bonjour Yves.
Bonjour.
Ça va mieux ?
Beaucoup mieux. Les Bleus ont gagné leur premier match. Tout s'est bien passé dans les stades et dans les fan zones. Pour l'instant, à l'extérieur, évidemment, c'est autre chose. On va y venir. En tout cas, le président peut être soulagé. C'est le JDD qui le dit. Dans un pays morose et pessimiste, l'équipe de France a ouvert une parenthèse bienvenue. Les oiseaux de mauvais augure qui prédisaient un euro gâché par les conflits sociaux en auront été pour leurs frais. Le ciel s'est éclairci. D'ailleurs, remarque Cécile Amar, à l'Élysée, on attend sans grande inquiétude la suite du mouvement social. Le passage de la loi controversée devant les députés aura lieu début juillet dans la dernière ligne droite de l'euro, alors que les Français auront la tête en bleu. Autant dire que, eh bien que rien du tout, précise de son côté Dominique de Montvalon, car il n'y a ni pause ni trêve dans ce conflit. Philippe Martinez, le leader de la CGT, a remis le couvert dans Le Parisien hier matin en exigeant que le gouvernement retire les 5 articles qui font la colonne vertébrale de la loi El Khomri, excusez du peu. La manifestation nationale de mardi a toutes les chances d'être importante. Alors ce ne sera pas dérisoire, mais ce ne sera pas un tsunami non plus, observe un proche de François Hollande. On verra bien. En fait, conclut de Montvalon, la bataille est maintenant plus politique que sociale. Savoir quelle gauche prendra idéologiquement le dessus et donc quelle gauche représentera la gauche en 2017. Quant à l'image que renvoie notre pays, dont s'inquiète également l'éditorialiste du JDD, eh bien rien de vraiment nouveau. Comme le dit au journal la chef du bureau de Vie économiste à Paris, Sophie Peller, tous ceux qui aiment la France en connaissent évidemment le meilleur et le pire. On est jaloux de votre mode de vie, bien sûr, dit-elle, mais exaspéré par les blocages face au changement. Et cela dit, c'est toujours une Britannique qui parle. Le problème, à mes yeux, dit-elle, ne vient pas des Français. Il vient d'un vrai manque de légitimité politique et de leadership. François Hollande aurait dû dire la vérité sur l'état du pays en 2012, comme l'a fait chez nous David Cameron, qui avait promis l'austérité, qui a mis en œuvre ce qu'il avait promis et qui, en plus, a même été réélu. Cela dit, conclut Sophie Peller, j'aurais du mal en tant qu'anglaise, évidemment, à vous donner des leçons compte tenu du comportement de nos supporters à Marseille.
Une guerre anglo-russe sur le Vieux-Port.
Et oui, c'est le terme qui revient à plusieurs reprises. La guerre dans le JDD sur le site sled.fr. Marseille transformée en zone de guerre, ce qui est malgré tout très exagéré, même si les images sont édifiantes et le bilan lourd. 4 blessés graves, dont un supporter anglais entre la vie et la mort. Et le Vieux-Port s'embrasa, titre Le Parisien, à l'image de ce qu'elle avait déjà vécu en 98 en marge d'un match Angleterre-Tunisie. La cité phocéenne a vu s'affronter pendant des heures durant des prétendus fans de foot anglais, russes et même marseillais. La bêtise a atteint des sommets, commente Clément Chailloux, en constatant ce qu'on avait peut-être un peu oublié, que la crainte du terrorisme ne doit pas éclipser le hooliganisme. Le Huffington Post prend soin de le souligner également. Les hooligans, c'est l'autre menace qui pèse sur cet euro. Une culture hooligan, entre guillemets, très ancrée dans les pays britanniques et dans les pays de l'Est, où des groupes rivaux ont pour coutume bizarre, d'organiser des fights, des combats, dans des endroits qui sont à l'égard des regards et de la police, des bandes qui ont envie d'en découdre et de montrer que ce ne sont plus les Anglais qui font la loi. Ce que confirme d'ailleurs au Parisien un sociologue du sport, Patrick Mignon, que pour les hooligans russes, affronter les Anglais c'est un vrai challenge. Et s'il n'y avait qu'eux d'ailleurs, les forces de l'ordre ne sont pas au bout de leur peine, car d'autres matchs ont été classés à risque, et notamment aujourd'hui même, Turquie-Croatie au Parc des Princes et Allemagne-Ukraine à Lille. Alors on lira dans l'équipe ce que sont, ce que veulent ces supporters violents, nationalistes, xénophobes et racistes. Et en attendant, peut-on faire mieux du point de vue de la sécurité ? Sans doute. Avait-on conscience, reprend Patrick Mignon dans Le Parisien, que les bars pouvaient être des cibles ? Et pourquoi ne pas encadrer les supporters dès leur arrivée dans les gares, comme l'ont fait les Allemands pour la Coupe du Monde de 2006 ? Bon, On peut toujours tout envisager. Une réunion de crise se tiendra d'ailleurs tout à l'heure, place Beauvau, précise le JDD. Réunion qui devrait notamment décider de renforcer les interdictions de stade. Encore faudra-t-il pouvoir repérer les supporters les plus dangereux, en sachant que le problème ne se situe pas dans les stades, mais dans les rues. On peut aussi espérer que les équipes les plus mal accompagnées seront rapidement éliminées, ce qui ferait disparaître automatiquement les supporters. Mais qui les supporterait? Qui supporterait-il plutôt si leur couleur n'était plus en lice? Question intéressante que le site Atlantico a posée à 3 chercheurs spécialistes des relations européennes. Les réponses évidemment sont liées aux affinités culturelles et historiques de chaque pays, ce qui va bien au-delà du football. Les Français par exemple, ils soutiendraient en priorité les Belges, les Espagnols ou les Portugais. Et très curieusement, ils ne seraient pas derrière les Allemands et encore moins derrière les Anglais. Allez savoir pourquoi.
Pour l'instant, les Français sont là.
Ils sont là et bien là, a priori, puisqu'ils font partie des favoris de cette compétition. Des Bleus dont l'exécutif, on l'a dit, attend beaucoup, comme si une victoire à l'Euro pouvait permettre de sortir de la crise. Tout le monde a l'air d'y croire en France, remarque Éric Collier dans Le Monde, à l'exception, bien sûr, d'Éric Cantona, Benoît Hamon, Philippe Martinez, Pierre Gattaz, des pilotes d'Air France et des cheminots, des raffineurs et des chauffeurs de taxi, et de tous ceux qui ne sont pas encore montés au créneau pour défendre leurs intérêts. Mais sinon, tout le monde a l'air de croire en cette idée déraisonnable qu'un bon résultat en sport pourrait apporter un élan de bonne humeur à tout un pays. Et pourtant, les contre-exemples abondent. Sans parler du grand espoir des Black Blambeurs de 98. Souvenons-nous de la Coupe du Monde 78 en Argentine qui n'a pas amené la démocratie. Ou bien des JO d'Athènes en 2004 qui n'ont pas aidé les Grecs à combler leurs déficits. Non, conclut le chroniqueur du Monde, la notion du « ça va mieux » en sport est aussi vive que brève. Son confrère Benoît Hopquin le dit aussi un peu plus loin. Didier Deschamps est censé endosser le malaise des banlieues. Les Bleus doivent exciper des brevets de vertu et de savoir-vivre, prouver leur identité nationale et souder la nation. Non, décidément c'est beaucoup trop. Ce costume, ce maillot est vraiment trop grand pour eux. Et si à l'inverse, ce championnat d'Europe en fait n'était qu'une diversion sociale? Dans le même journal, Le Monde, c'est un collectif cette fois qui s'interroge, des chercheurs, des professeurs, qui ont choisi de dénoncer ce qu'ils appellent le circus maximus du football, un Euro 2016 dont les retombées économiques seront essentiellement captées par l'UEFA et par ses partenaires commerciaux. Alors oui, demande ce collectif, on peut se demander à qui profite vraiment le foot quand dans le même temps, des coupes budgétaires drastiques frappent quasiment tous les secteurs publics, les hôpitaux, les transports, l'enseignement supérieur, l'aide sociale. Et sur ce point d'ailleurs, petite parenthèse à lire dans les Échos du week-end, pas du tout d'accord sur les perspectives financières pour les Échos. L'euro rapporte beaucoup d'euros à l'UEFA, oui, aux équipes participantes également, mais aussi à l'économie nationale. Un coup de pouce estimé, on ne sait pas comment d'ailleurs, à un peu plus d'un milliard d'euros. Fermez la parenthèse et disons-le, reprend le collectif qui s'exprime dans Le Monde, disons-le, ces sommes dépensées pour cet événement sont indécentes dans un pays où la précarité professionnelle est grandissante et où s'exprime le rejet de la loi travail. Conclusion. Il nous semble urgent de résister à l'asservissement idéologique du football dont se sert le gouvernement pour étouffer le mouvement social. Urgent de dénoncer l'exutoire mystificateur du ballon rond. Voilà, c'est dit.
C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Et oui, c'est une spécificité française, paraît-il, de privilégier, en tout cas publiquement, le pessimisme. Le Monde en fait également son dossier du week-end en constatant que le « ça va mieux » n'est pas français. Champion d'Europe du mal-être, les Français seraient d'irréductibles pessimistes par culture autant que par devoir. Certains se disent, on vient de l'entendre, qu'afficher son pessimisme, c'est afficher sa solidarité avec la potentielle souffrance des autres. Et pour d'autres, ce qui nous rend morose, eh bien c'est la gloire passée de la nation française dont il nous faut accepter qu'elle est un petit pays. Ce qu'explique un chroniqueur du Financial Times installé à Paris, qu'un Français qui voyage devrait dire des trucs comme « Vous connaissez peut-être pas mon pays, eh bien il est tout à côté de la Belgique. Et puis sa population, eh bien c'est les 3/4 de la population éthiopienne, voilà. » Une fois que les Français auront intégré cette idée que la France est un pays ordinaire, explique ce chroniqueur du Financial Times, eh bien leurs sentiments de grandeur disparaîtront. Le pire dans cette affaire, c'est ce que souligne de son côté un journaliste québécois, Jean-Benoît Nadeau, que le non-pessimisme est parfaitement présent dans la société française. C'est juste qu'il ne s'exprime pas. Les Français réservent leur optimisme pour le privé. Autrement dit, Le ça va mieux de François Hollande, eh bien oui, il a peut-être raison, mais c'est pas des choses à dire.
Le président a convoqué tous les ministres ce matin, les a vivement encouragés à nous dire que tout allait bien. Quand il est venu à la télé, il a mis de l'eau dans son vin, nous a simplement remercié d'un petit geste de la main.
Mais j'ai pas compris, Yves Decamp, vous, ça va mieux ?
Oui,
c'était la revue de presse d'Yves Decamp.
Et la météo avec Fnac.com, plus de 3 millions de livres et d'e-books. Avec la carte Fnac, profitez de la livraison gratuite de tous vos livres. Fnac.
À Météo France, Jean-Michel Golinski, un temps humide et frais au nord et plus sec au sud.
Absolument, la ligne de partage passe par les Charentes, le nord du Massif central et de Rhône-Alpes. Alors dans la partie nord, les températures maximales ne dépasseront pas 18 degrés en moyenne, sous un ciel d'aspect maussade ce matin, plus variable cet après-midi, mais avec des averses et de l'orage. Et puis sur les régions méridionales, le temps sera sec, malgré un ciel quand même assez voilé aujourd'hui, entre le sud-ouest et les Alpes. Notez que près de la Méditerranée, le vent sera très sensible. Les températures voisines de 23 degrés le long de la Garonne atteindront un maximum de 27 à 28, du golfe du Lion aux côtes varoises, 25 à 26 sur la côte d'Azur et la Corse.
Tous les dimanches à partir de 16h sur France Inter,
Very good trip.
Mishka Assayas.
Je